Radio Campus, il est 3h.
Radio Campus.
Campus.
La nuit.
On réécoute une émission magazine suivie d'une émission musicale à 4h.
Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
Mais d'abord, c'est un style oral, un style parlé, mais très calculé, avec un rythme secret. Une jubilation du mot, une joie de la syllabe, c'est une espèce de dégustation charmante des vocables.
À Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Annibal Amilcar. Les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour d'anniversaire de la bataille d'Erix. Et comme le maître était absent et qu'ils se trouvaient nombreux, ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté. Les capitaines, portant des coutures de bronze, s'étaient placés dans le chemin du milieu, sous un voile de pourpre à franges d'or qui s'étendait depuis le mur des écuries jusqu'à la première terrasse du palais. Le commun des soldats était répandu sous les arbres d'où l'on distinguait quantité de bâtiments à toit plat, pressoirs, celliers, magasins, boulangeries et arsenaux, avec une cour pour les éléphants, des fosses pour les bêtes féroces, une prison pour les esclaves. Des figuiers entouraient les cuisines, Un bois de sycomore se prolongeait jusqu'à des masses de verdure où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers. Des vignes, chargées de grappes, montaient dans le branchage des pins. Un champ de roses s'épanouissait sous les platanes. De place en place sur des gazons se balançaient des lys. Un sable noir, mêlé à de la poudre de corail, parsemait les sentiers. Et au milieu, l'avenue des cyprès, formée d'un bout à l'autre comme une double colonnade d'obélisques verts. Le palais, bâti en marbre numidique, tacheté de jaune, superposé tout au fond sur de larges assises, 4 étages en terrasse. Avec son grand escalier droit en bois d'ébène portant aux angles de chaque marche, la proue d'une galère vaincue. Avec ses portes rouges écartelées d'une croix noire, ses grillages d'airain qui le défendaient en bas des scorpions et ses treillis de baguettes dorées qui bouchaient l'eau de ses ouvertures. Il semblait aux soldats dans son opulence farouche, aussi solennelle et impénétrable que le visage d'Amilcar. Il y avait là des hommes de toutes les nations, des Ligures, des Lusitaniens, des Baléares, des Nègres et des fugitifs de Rome. On entendait à côté du patois lourd d'Orient retentir les syllabes celtiques bruissantes comme des chars de bataille et les terminaisons ioniennes se heurter aux consonnes du désert, âpres comme des cris de chacal. Le grec se reconnaissait à sa taille mince, l'égyptien à ses épaules remontées, le cantabre à ses larges mollets. Des cariens balançaient orgueilleusement les plumes de leurs casques, les archers de Cappadoce s'étaient peints avec des jus d'herbe, de larges fleurs sur le corps, et quelques lydiens portaient des robes de femmes, dînaient en pantoufles avec des boucles d'oreilles. D'autres, qui s'étaient par pompes barbouillées de vermillon, ressemblaient des statues de corail. Les cuisines d'Amilcar n'étaient pas suffisantes. Le conseil leur avait envoyé d'esclaves de la vaisselle, des lits. Et l'envoyait au milieu du jardin, comme sur un champ de bataille, quand on brûle les morts, des grands feux clairs où rôtissaient des bœufs. Les pains, saupoudrés d'anis, alternaient avec des gros fromages plus lourds que des disques et des cratères pleins de vin, des cantards pleins d'eau auprès des corbeilles en filigrane d'or qui contenaient des fleurs. La joie de pouvoir se gorger à l'aise dilatait tous les yeux. Et ça et là, des chansons commençaient. La poussière autour d'eux tombait et ils commençaient à chanter. Lorsque Anan lui-même parut au haut d'un éléphant, il était nu-tête sous un parasol de byssus que portait un nègre derrière lui. Son collier à plaques bleues battait sur les fleurs de sa tunique noire. Des cercles de diamants comprimaient ses bras énormes et la bouche ouverte, il brandissait une pique démesurée, épanouie par le bout comme un lotus et plus brillante qu'un miroir. Aussitôt, la terre s'ébranla et les barbares virent accourir sur une seule ligne tous les éléphants de Carthage avec leurs défenses dorées, leurs oreilles peintes en bleu, revêtues de bronze et secouant par-dessus leurs carapaçons d'écarlate des tours de cuir où, dans chacune, 3 archers tenaient un grand arc ouvert. Une inspiration le guidait. Il entraîna Mato derrière le char de Tanit, où une fente, large d'une coudée, coupait la muraille de haut en bas. Alors ils pénétrèrent dans une petite salle ronde et si élevée qu'elle ressemblait à l'intérieur d'une colonne. Il y avait au milieu une grosse pierre noire à demi sphérique, comme un tambourin. Des flammes brûlaient dessus, un côte d'ébène se dressait par derrière, portant une tête et deux bras. Au-delà, on aurait dit un nuage où étincelaient des étoiles. Des figures apparaissaient dans des profondeurs de ses plis. Eshmoun avec les Kabirs, quelques monstres déjà vus, les bêtes sacrées des Babyloniens et d'autres qu'il ne connaissait pas. Cela passait comme un manteau sous le visage de l'idole, et remontant, étalé sur le mur, s'accrochait par angles, tout à la fois bleuâtre comme la nuit, jaune comme l'aurore, pourpre comme le soleil, nombreux, diaphanes, étincelants, légers. C'était le manteau de la déesse. Le Zaïmph saint que l'on ne pouvait voir. La lune qui l'avait rendu si pâle, et quelque chose des dieux l'enveloppait comme une vapeur subtile.
Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
défilèrent par la rue de Camon et la porte de Cirta, pêle-mêle. Les archers avec les hoplites, les capitaines avec les soldats, les Lusitaniens avec les Grecs. Ils marchaient d'un pas hardi, faisant sonner sur les dalles leurs lourds cothurnes. Les armures étaient bosselées par les catapultes et les visages noircis par le hâle des batailles. Des cris rauques sortaient des barbes épaisses. Leurs côtes de mailles déchirées battaient sur les pommeaux des glaives et l'on apercevait au trou de l'airain leurs membres nus, effrayants comme des machines de guerre. Les saris, les haches, les épieux, les bonnets de feutre et les casques de bronze, tout aussi à la fois d'un seul mouvement. Ils emplissaient la rue à faire craquer les murs. Et cette longue masse de soldats en armes s'épanchait entre les hautes maisons à six étages barbouillées de bitume. Derrière leurs grilles de fer ou de roseaux, les femmes, la tête couverte d'un voile, regardaient passer en silence les barbares.
Thank you.
Le soir tombait, des senteurs de baume s'exhalaient. Pendant longtemps, ils se regardèrent en silence. Les îles de Salembo, au fond de ses longues draperies, avaient l'air de deux étoiles dans l'ouverture d'un nuage. Avant que le soleil fût couché, il se retira.
Allah, 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 All
Des gens de la campagne, montés sur des ânes ou courant à pied, pâles, essoufflés, fous de peur, arrivèrent à la ville. Ils fuyaient devant l'armée. En 3 jours, l'armée des barbares avait fait le chemin de Sica pour venir à Carthage et tout exterminer. On ferma les portes. Les barbares presque aussitôt parurent, mais ils s'arrêtèrent au milieu de l'isthme, sur le bord du lac. Il aurait fallu pour les écraser dans l'isthme que 2 armées puissent les prendre à la fois par derrière. L'une débarquant du fond du golfe du Tic, la seconde à la montagne des eaux chaudes. Mais que faire avec une seule légion sacrée grosse de 6000 hommes tout au plus? S'ils s'inclinaient vers l'Orient, ils allaient se joindre aux nomades, intercepter la route de Cyrène et le commerce du désert. S'ils se repliaient sur l'Occident, la Numidie se soulèverait. Enfin, le manque de vivres les ferait tôt ou tard dévaster, comme des sauterelles, les campagnes environnantes. Les riches tremblaient pour leurs beaux châteaux, pour leurs vignobles, pour leur culture.
L'infanterie punique tout entière revint sur les barbares. Elle les coupa. Leurs manipules tournoyaient et spassaient les unes des autres. Les armes carthaginoises, plus brillantes, les encerclaient comme des couronnes d'or. Un fourmillement s'agitait au milieu, et le soleil, frappant dessus, mettait au point des glaives des lueurs blanches qui voltigeaient. Cependant, des fils de clinabar restaient étendus sur la plaine. Les mercenaires arrachaient leurs armures, s'en revêtaient et retournaient au combat. Les carthaginois, trompés, plusieurs fois s'engagèrent au milieu d'eux. Une hébétude les immobilisait, ou bien ils refluaient, et de triomphantes clameurs s'élevaient au loin et avaient l'air de les pousser comme des épaves dans la tempête. Hamilcar se désespérait. Tout allait périr sous le génie de Mato et l'invincible courage des mercenaires.
Radio Campus, la nuit.
Les rediffusions.
furent que 50, puis 20, que 3 et 2 seulement. Un Samnite armé d'une hache et Mato, qui avait encore son épée. Mato avait perdu ses épaulières, son casque, sa cuirasse. Il était complètement nu, plus livide que les morts, les cheveux tout droits, avec deux plaques d'écume au coin des lèvres. Son épée tournoyait si rapidement qu'elle faisait une auréole autour de lui. On l'attacha sur l'éléphant, les quatre membres en croix, et ceux qui n'étaient pas blessés, l'escortant, se précipitèrent à grand tumulte vers Carthage. La nouvelle de la victoire était parvenue, chose inexplicable, dès la troisième heure de la nuit. La clepsydre de Camon avait versé la cinquième comme ils arrivaient à Malqa. Alors Mato rouvrit les yeux. Il y avait tant de lumière sur les maisons que la ville paraissait tout en flammes. Au sommet de l'acropole, la porte du cachot, taillée dans le roc au pied du temple, venait de s'ouvrir. Et de ce trou noir, un homme sur le seuil était debout. Il en sortit courbé en deux, avec l'air effaré des bêtes sauvages quand on les rend libres tout d'un coup. La lumière l'éblouissait. Il resta quelque temps immobile. Tous l'avaient reconnu et ils retenaient leur haleine. Le corps de cette victime était pour eux une chose particulière et décoré d'une splendeur presque religieuse. Ils se penchaient pour le voir, les femmes surtout. Elles brûlaient de contempler celui qui avait fait mourir leurs enfants et leurs époux. Et du fond de leur âme, malgré elle, surgissait une infâme curiosité, le désir de le connaître complètement. Envie mêlée de remords qui se tournait en un surcroît d'exécration. Enfin, il s'avança. L'étourdissement de la surprise s'évanouit. Quantité de bras se levèrent et on ne le vit plus. L'escalier de l'acropole avait 60 marches. Il est descendu comme s'il eût roulé dans un torrent d'une montagne. Trois fois, on l'aperçut qui bondissait, puis en bas. Il retomba sur ses deux talons. Ses épaules saignaient, sa poitrine haletée à larges secousses. Et il faisait pour rompre ses liens de tels efforts que ses bras croisés sur ses reins nus se gonflaient comme des tronçons de serpents. De l'endroit où il se trouvait, plusieurs rues partaient devant lui. Dans chacune d'elles, un triple rang de chaînes de bronze, fixées au nombril des dieux Patakès, s'étendait d'un bout à l'autre. Parallèlement, la foule était tassée contre les maisons, et au milieu des serviteurs, des anciens qui se promenaient en brandissant des lanières. Un d'eux le poussa en avant, d'un grand coup. Mato se mit à marcher. Ils allongeaient leurs bras par-dessus les chaînes en criant qu'on lui avait laissé le chemin trop large. Et il allait, palpé, piqué, déchiqueté par tous ses doigts. Lorsqu'il était au bout du bruit, une autre apparaissait. Plusieurs fois, il se jeta de côté pour tenter de les mordre, mais on s'écartait bien vite. Et les chaînes le retenaient, et la foule éclatait de rire. Un enfant lui déchira l'oreille. Une jeune fille, dissimulant sous sa manche la pointe d'un fuseau, lui fendit la joue. On lui enlevait des poignées de chevaux, des lambeaux de chair. D'autres, avec des bâtons, ou tenaient des épombes imbibées d'immondices, lui tamponnaient le visage. Du côté de sa gorge, un flot de sang jaillit. Aussitôt, le délire commença. Ce dernier des barbares le représentait tous les barbares, toute l'armée. Il se vengeait sur lui de tous les désastres, de leur terreur, de leurs opprobres. La rage du peuple se déversait en s'assouvissant. Les chaînes, trop tendues, se courbaient et allaient se rompre. Ils ne sentaient pas les coups des esclaves frappant sur eux pour les refouler. D'autres se cramponnaient aux saillies des maisons. Toutes les ouvertures dans les murailles étaient bouchées par des têtes et le mal qu'ils ne pouvaient lui faire, ils lui hurlaient. C'était des injures atroces, immondes, avec des encouragements ironiques et des imprécations. Et comme il n'avait pas assez de sa douleur présente, il lui annonçait d'être plus terrible encore pour l'éternité.
Eu famei to passa e cer, que cai pontos cai pnoiai, ure a tempe a sigato, ejo e zongo e tornizon, mele e gar pros gemas baini, foibos a quer se comas eu jaitas.